Premier bilan. Que dire de ces situations de silence dans ces trois villes? Et pour revenir à la notion de culture sonore, quelles conclusions peut-on tirer?
Eh bien, nous tirerons deux conclusions principales. D'abord, le silence ne saurait constituer un objectif d'aménagement en soi. C'est une notion culturelle dont on comprend, je crois, à la suite de ces trois écoutes, trois propriétés fondamentales. Le silence est relatif, polysémique et révélateur. Relatif d'abord parce qu'il n'existe pas de silence absolu. Un climat silencieux ne prend de sens que par rapport à un environnement sonore. Polysémique ensuite, parce qu'il existe une infinité de façons de vivre le silence en ville et parce qu'il évoque ici, comme on l'a vu, suivant les cas, la tranquillité ou l'angoisse, la protection ou l'enfermement, le vide ou le plein, le quand même vivant ou la mort. Révélateur enfin parce que le silence n'est vécu positivement que s'il révèle d'autres sons de manière significative, par exemple la fontaine, par exemple une voix, une chanson, etc. Deuxième conclusion, l'écoute que nous avons qualifiée d'extérieure, c'est-à-dire celle des gens qui ne connaissent pas la ville, révèle des différences culturelles importantes dans l'appréciation de ce qu'est ou de ce que n'est pas un confort sonore ou un silence plein. Et l'on peut mentionner que l'attachement de ces différences culturelles aux régions de référence n'est pas dépourvu de stéréotypes. Lausanne est quand même vivante, ce qui renvoie au stéréotype vaudois bien connu du « ni pour ni contre », bien au contraire. Locarno, de son côté, est caractérisé par un climat chaud de bien-être flegmatique, ce qui renvoie à un cliché méditerranéen bien connu également. Zurich, à l'inverse, devient un lieu de mise en scène qui tourne mal, une sorte d'espace mort d'où la vie a été évacuée, ce qui renvoie à un imaginaire classique également de la grande ville.